Merci Jean-Marc. Chers amis, chers collègues, je commencerai par un préambule. L'étude du conservatisme comporte un certain nombre de difficultés qui sont, je pense, particulières à ce courant idéologique. Comme le rappelle Frédéric Boilly, je vais me référer à quelques reprises à son ouvrage « L'interprétation est mienne ». Comme il le rappelle donc dans son ouvrage sur le conservatisme publié récemment, quiconque s'intéresse sérieusement au conservatisme doit d'abord mettre de côté ou contourner l'énoncé selon lequel le conservatisme serait mort ou que le conservatisme serait impossible. L'analyste doit aussi apprendre à rapidement constater, ajoute Boilly, je le cite, que plusieurs conservateurs préfèrent volontairement cacher leur orientation politique, sans compter qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup qui s'ignorent. Alors, j'estime à mon tour que ce type de dissimulation volontaire ou ce type de conservatisme sublimé rend d'autant plus nécessaire, même très nécessaire, un travail d'objectivation des positions et des discours politiques, même si ce jeu de cache-cache est parfois exaspérant et semé d'embûches, donc, pour ce travail d'analyse. Ces obstacles, à mon sens, ne sont toutefois pas insurmontables, pourvu que l'on évite le piège, justement, des autodescriptions que proposent les acteurs à l'égard d'eux-mêmes ou de leur propre courant. J'ajoute aussi que, pour faire œuvre de clarté, il faut également se méfier du piège des signatures individuelles. C'est-à-dire qu'il faut se méfier, lorsqu'on en fait l'analyse, se méfier de la prétendue individualité des auteurs. Parce que cela rend trop opaque, justement, le fait que la pensée est toujours le fruit d'un travail collectif, on pourrait même dire le fruit d'un travail mimétique. Et dans notre société, rappelons-le, il y a beaucoup, mais beaucoup de redondances. Et lorsqu'il s'agit d'étudier le discours, il y a rarement parole individuelle. Nous sommes d'abord parlés par le discours, en quelque sorte. Et lorsqu'il s'agit d'idéologie politique, a fortiori, je préfère non pas parler, pour ma part, d'auteurs individuels, mais d'auteurs collectifs. Qu'est-ce que j'entends par auteur collectif? J'entends une coalition idéologique qui exploite des ressources organisationnelles et symboliques communes et qui opère une division du travail intellectuel visant à couvrir une diversité de registres langagiers et une diversité d'espaces médiatiques et institutionnels. Alors, cette mécanique par laquelle œuvre l'auteur collectif se laisse aisément repérer, encore plus facilement repérer, si vous voulez, sur les sites de production idéologique, comme par exemple les revues d'idées au Québec, une scène intellectuelle donc qui méritera notre attention aujourd'hui. Mon propos, en quelques mots, sera de dire que l'auteur collectif appelé « Nouvelle sensibilité conservatrice » est actuellement hégémonique dans le paysage des revues d'idées au Québec et qu'il profite avantageusement de l'écrasante domination des débats sur la nation dans l'économie de la vie intellectuelle québécoise. Et là, je me permets une note de bas de page de clarification. Martin Petitclerc, tantôt, affirmait avec justesse, je crois, que dans le champ scientifique, l'équilibre des forces est différent, donc je m'en remets à lui là-dessus. Mais lorsque l'on considère le champ idéologique, principalement les revues d'idées au Québec, le rapport de force est certainement inversé dans ce cas précis. Alors, rappelons d'abord que cet auteur collectif est né il y a à peu près 10 ans, autour d'un colloque parrainé par le programme d'études sur le Québec de l'Université McGill, en marge, à l'époque, des célébrations du 40e anniversaire de la Révolution tranquille. À l'invitation de Stéphane Kelly, qui est un des fondateurs de la revue Argument, un groupe d'historiens, sociologues, politologues, philosophes se réunissent pour discuter de deux choses, de la mutation de la sensibilité historique et ainsi de la crise des humanités. Un ouvrage collectif, on en a fait mention tantôt, paru en 2003, intitulé « Les idées mènent le Québec », documente l'expression inaugurale de la pensée du groupe. Dans l'introduction, toutefois, on veille soigneusement à ne pas positionner cet auteur collectif sur l'échiquier idéologique. Je citerai tout de suite l'introduction. « Nous avons laissé en suspens, disent-ils, jusqu'ici, la question des implications politiques de la nouvelle sensibilité. Est-elle une reformulation d'une pensée de gauche ou de droite? Est-elle fédéraliste, souverainiste? Il est douteux que ces deux grands clivages politiques qui hantent nos débats politiques depuis près d'un demi-siècle éclairent la nature de la nouvelle sensibilité. » Fin de la citation. Il y a ici, évidemment, un déni de l'idéologie, mais un déni de l'idéologie qui n'allait pas durer. Car, dans un ouvrage collectif consacré à la réception québécoise d'Anna Arendt, George Grant et Emmanuel Mounier, donc au Québec, un ouvrage revendiqué par la nouvelle sensibilité, Marc Chevrier et Lucille Baudry osent demander laquelle des familles politiques décrirait en fait le mieux ce mouvement qui, disent-ils, serait délibérément ambigu. S'agit-il, comme le demande le titre de l'ouvrage, d'une pensée libérale, d'une pensée critique ou conservatrice? Pour sûr, et dans leur introduction que je cite, « ramener les travaux de la nouvelle sensibilité à la veine conservatrice risque toutefois de créer, c'est leur propos, plus de confusion que de clarté. » Alors, on pose la question de l'idéologie, mais on n'ose pas la figer. Et je fais la parenthèse suivante. J'ai participé moi-même à cet ouvrage sur la réception d'Anna Arendt au Québec, et j'ai pris en quelque sorte le motif de la clarté au sérieux, mais à l'inverse, c'est-à-dire en séparant Anna Arendt de la nouvelle sensibilité historique. Là n'est pas cependant peut-être la conclusion des directeurs de l'ouvrage, mais si l'histoire vous intéresse, vous irez au texte en question, si ça vous intéresse. Pour sûr, donc, les directeurs de l'ouvrage n'arrivent pas nécessairement à cette conclusion, et ils optent plutôt pour l'étiquette molle et commode, mais c'est un effort, on va dans une direction. L'étiquette, donc, de libéraux perplexes pour désigner les auteurs de la nouvelle sensibilité. Et ils avouent du même souffle qu'ils préfèrent laisser à d'autres le soin d'étiqueter plus précisément, plus tard, donc, l'identité politique du mouvement. Ce qui est heureux, c'est que le temps passe. Nous venons de vivre le 50e anniversaire de la Révolution tranquille, et en quelque sorte, le temps passe et les masques tombent. Et je pourrais employer la métaphore suivante à l'image de lourds sédiments qui enfin retombent au fond du verre que l'on est fatigué de brasser et de rebrasser. Le paysage politique s'est beaucoup clarifié à la fin de la décennie. Sur ce chemin, donc il y a quelques jalons d'importance et de la lecture, le politologue Chedly Belkhodja, dans un article important, fameux, a eu l'audace de brosser un portrait in extenso des auteurs et des discours de la nouvelle sensibilité, résolument qualifié chez lui de conservatrice. Selon Belkhodja, le principal point de convergence du groupe, parallèlement à sa critique de la Révolution tranquille toujours, tiendrait dans une critique du multiculturalisme canadien. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui font la critique du multiculturalisme canadien à partir de différents horizons. Les choses se précisent lorsque Belkhodja ajoute que ce débat s'est déplacé récemment vers une critique du malaise identitaire de la société québécoise, dans laquelle le débat sur la nation, je cite, « a évolué vers des considérations sur l'ethnicité et les clivages culturels et religieux ». Alors, Belkhodja, toujours, voit les tenants de la nouvelle sensibilité comme étant ceux qui, je cite, « s'inquiètent de la disparition progressive d'une identité francophone, commune et homogène, incapable de trouver sa place légitime dans une société des identités ». Leur projet en est un de refondation nationale, un projet de société à réaliser autour d'un socle fondateur capable de repenser le sujet citoyen. Mais ce projet, précision, passe par la dénonciation de la dérive identitaire et multiculturelle du Canada et de l'Occident, dérive qu'il faut, je citais Belkhodja, dérive qu'il faut donc bien identifier et pourchasser. Donc évidemment, il y a conservatisme explicite dans cette critique, et elle n'a pas échappé non plus à d'autres observateurs qui considèrent aussi que le thème, un thème un peu fourre-tout, de la refondation nationale prête justement à une série de bricolages, de rafistolages conservateurs, et en quelque sorte une occasion qui se présente au renouveau idéologique de ce courant. Maintenant, dit notamment Frédéric Boilly, je le cite, « le conservateur va mettre l'accent surtout sur la nécessité de vivre au sein d'un ensemble politique, une communauté, qui a une forte conscience d'elle-même ». Fin de la citation. C'est évidemment très généralement défini, mais là, ça devient intéressant, c'est de replacer la chose ainsi, c'est que dans le langage typique de la nouvelle sensibilité, cet ensemble politique auquel on référait dans la citation devient en fait la nation, prise comme institution, et l'institution, toujours dans le vocabulaire du mouvement, est précisément décrite par un Martin Meunier dans l'ouvrage fondateur de Kelly, je cite, « comme principe de conservation, de protection et de promotion d'un idéal posé comme a priori et comme finalité. » C'est pour ma part, et j'estime que ça apporte l'assentiment de plusieurs sans doute, c'est une topique conservatrice des plus classiques. L'étude de Belkhodja, donc pour y revenir, a analysé un corpus tiré des revues d'idées québécoises, et c'est là que je vais glisser tranquillement, parmi lesquels Argument et l'Action nationale s'avèrent être les principaux organes de la nouvelle sensibilité. Et c'est en ce point précis de l'analyse que mes recherches actuelles viennent en quelque sorte attester de l'hégémonie de ces publications dans le paysage des revues d'idées. Donc, je vais aller très rapidement, on m'a informé que j'avais 10 minutes de compléter. Revues d'idées au Québec. Depuis un siècle, c'est connu, donc elles servent de véhicule pour l'animation du débat politique et idéologique au Québec. Nombreux intellectuels, on pourrait les appeler intellectuels publics, les investissent de sorte à dissimuler leurs pensées. Au sein de l'Observatoire des nouvelles pratiques symboliques à l'Université d'Ottawa, je conduis une recherche bibliométrique d'envergure qui vise à dresser la cartographie de ce milieu intellectuel. Et pour faire court, ce que je pose comme question à mon corpus, c'est qui sont les auteurs dans les revues d'idées au Québec et qui sont les ressources qu'ils citent pour légitimer leur projet intellectuel, leur projet idéologique en quelque sorte. Ce que l'analyse permet, c'est de dégager la centralité, le cœur de ces réseaux et en quelque sorte la périphérie ou ce qui est moins important, si on veut, dans la conversation nationale. Alors, pour aller au cœur de l'affaire, je vais débouler en quelque sorte des résultats. Moi et mon équipe de recherche, nous avons choisi d'abord de s'intéresser au corpus récent des revues d'idées au Québec, donc 2002-2008, car nombreuses revues sont apparues en 2003, donc je passe là-dessus. Une douzaine de revues, de Ababar à Relations, si on veut, qui se disputent ce champ qu'on appelle revue d'idées ou champ idéologique. On s'est pensé là-dessus, on est très vite compris, on est arrivé rapidement à la conclusion que cet ensemble de 12 revues était très structuré et hiérarchisé. Pour le découvrir, et par un des chemins par lequel nous y sommes arrivés, c'est de s'intéresser à qui est cité dans ces revues-là, de sorte à savoir qui sont les auteurs de l'heure ou qui sont ceux qui sont davantage discutés que d'autres. C'est une mesure bibliométrique assez commune, la citation. Je pourrais, en fin de compte, faire l'analogie avec Facebook, où finalement je me demande qui sont les amis des principales revues d'idées au Québec. Et donc, en reconstituant le réseau de ces auteurs-là, on a dégagé une structure assez hiérarchique et qui impose trois constats. Je serai le plus rapide possible. Premier constat, donc, avant d'arriver à une mise en réseau, si on veut, de ces revues, on découvre assez aisément qui sont les auteurs les plus cités dans le corpus de référence, donc 12 revues sur 6 années de publication. Fernand Dumont et Jacques Bonchemin donc, ressortent clairement comme étant les auteurs les plus discutés de ce corpus. Il y avait à la base 3500 auteurs différents cités par ce corpus. On arrive à une composition très stratifiée où peu sont cités beaucoup et beaucoup, beaucoup sont cités rarement ou jamais. Fernand Dumont, donc Jacques Bonchemin, ressortent haut la main et ils vont s'avérer être également les figures centrales des revues les plus importantes du constat. Deuxième constat rapidement, si on élargit, donc on a un palmarès d'une vingtaine d'auteurs ici, si on tient compte des 80 auteurs à peu près les plus cités, là, ça va vous donner mal au cœur, mais je vais simplifier la chose dès après coup. On arrive à restituer un réseau, on n'aura pas le temps de le lire, à l'intérieur desquels on retrouve des nœuds, les nœuds principaux, c'est-à-dire les nœuds noirs, où des revues se disputent en quelque sorte des auteurs cités et prisés par cette époque-là. La taille des nœuds n'est pas arbitraire, la taille des nœuds est fonction de la centralité d'une revue dans le réseau, centralité expliquée par le fait qu'elle cultive et qu'elle cite abondamment des auteurs de premier plan ou des auteurs jugés importants pour l'époque. C'est assez diffus, sauf pour la région en bas à gauche de ce réseau, où l'Action nationale et Argument, très importante revue, se disputent ou exploitent conjointement, si on veut, un corpus très serré d'auteurs centraux. Les Dumont et Bauchemin sont au milieu, si on veut, de leur trafic, en quelque sorte. Ils sont très présents aux deux endroits. C'est un fouillis, en quelque sorte, quoi qu'il clarifie certaines choses. Si on porte maintenant notre attention sur la composante centrale de ce réseau, en guise de troisième constat, si on veut, on arrive à une image beaucoup plus claire de ceux, en quelque sorte, qui structurent au plus profond, si on veut, de ce réseau des revues d'idées, la conversation principale. Alors, c'est mon troisième constat pour arriver à une sorte de clarté qui réduit la chose à peu de revues, soit 4 revues et 8 auteurs. Une composante centrale, donc, très exclusive. Et si on retrouve encore une fois la centralité nette de Argument et l'Action nationale, on redécouvre aussi des auteurs qui se hisse, on pourrait dire, jusqu'au centre du réseau, Charles Taylor, Fernand Dumont, dont j'ai fait mentionner tantôt, qui circule à l'intérieur de cette composante centrale. Devant l'état de concentration de ce débat, il est aisé, à mon avis, de dégager le thème principal de cette conversation et qui est, ça saute aux yeux, si vous connaissez les acteurs du débat, c'est véritablement le débat sur la nation et l'identité québécoise qui est au cœur de ce réseau. Ce n'est pas les inégalités sociales, ce n'est pas les questions féministes, c'est au contraire donc le débat sur la nation qui noyaute en quelque sorte la conversation principale. Et il n'y a pas là quelque chose de très nouveau sous le soleil, évidemment. La préséance de cette thématique n'est pas une nouveauté. Mais ce type d'analyse, c'est un outil parmi d'autres pour s'attaquer aux problèmes que je soulevais d'emblée, nous permet de montrer à quel point cette discussion domine les échanges intellectuels, mais surtout de montrer qui sont les principales figures de ce débat. qui sont invoquées comme étant légitimes et centrales. Fernand Dumont et Jacques Beauchemin, donc on les retrouve également aux prises à partie dans cette conversation centrale. Et j'ajouterais que Beauchemin est le principal auteur contemporain de cette constellation, et si on avait étendu sans doute le corpus pour embrasser l'ensemble de la décennie, qu'on pourrait lui décerner aisément la palme de l'intellectuel de la décennie, donc 2000-2010. Conclusion rapide. Il ne s'agit que d'un polaroid bibliométrique d'une situation certainement beaucoup plus complexe que je peux partiellement restituer ici, et cela ne remplacera jamais la lecture des dix penseurs et des dix revues, bien entendu. Mais c'est un outil à notre disposition pour dégager des rapports de force symbolique à l'intérieur du champ. En conclusion, toujours, je remarque que cela, par rapport aux questions d'aujourd'hui, nous permet principalement deux choses, rapidement. Premièrement, de multiplier les hypothèses et les chantiers analytiques. Il y a beaucoup d'étudiants avancés, diplômés ici. Vous vous destinez peut-être à la recherche sociale. Je crois qu'il y a une série de chantiers qui s'ouvrent à partir de ce type de résultats pour faire les choses suivantes, c'est-à-dire, par exemple, articuler des strates de discours entre le discours politique, le discours idéologique, des revues d'idées et le champ scientifique. Il y a moyen de penser la porosité entre les trois. C'est un travail de recherche ardu, mais certainement possible d'étudier la porosité entre les marchés intellectuels. Je dirais enfin, dernière chose, que ce type d'analyse permet de clarifier le paysage intellectuel sans doute en réfutant en quelque sorte ce type d'énoncé erroné qui se rend aveugle souvent au caractère marginal des discours qu'ils disent dominants et qui refuse par le fait même de diagnostiquer les délires de persécution des discours hégémoniques qui jouissent d'une centralité manifeste mais qui s'autoproclament en même temps comme marginaux. Alors que la situation n'est pas du tout, ne leur donne pas en quelque sorte de raison analytique là-dessus. Je m'arrêterai ici.